fiabilité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver et de vous donner la parole jusqu'à 8h temps universel. Cet appel sur l'actualité sur RFI avec, comme chaque jour, notre débat. Ce sera juste après le journal. Nous parlerons du revenu universel de base. Le sujet a été abordé à Montréal ce week-end au cours du Forum social mondial. Il revient souvent sur la table ce sujet. Une somme allouée à chacun sans contrepartie. Des expérimentations montraient que dans les pays du Sud, le système pourrait faire reculer sensiblement l'extrême pauvreté. Alors, utopie ou solution, on en débat après notre première partie, consacrée bien sûr à vos questions sur l'actualité. Nos journalistes, nos experts vous répondent. Aujourd'hui, vous vous interrogez sur la procédure de destitution de Dilma Rousseff au Brésil, sur la candidature d'un dissident républicain aux États-Unis et sur la demande de restitution des œuvres béninoises pillées au cours de la colonisation française. Mais d'abord, on va s'intéresser à la situation en Éthiopie avec Tamba Sidi qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Tamba.
Ouais, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
On écoute vos questions en bas sur l'Éthiopie.
Ok madame, s'il vous plaît, avant tout, permettez-moi de souhaiter bonne fête d'Assomption aux Guinéens et à tous les fidèles chrétiens du monde.
Merci Tamba. Voilà. On écoute okay. Vos questions maintenant.
Du coup, une cinquantaine de personnes seraient mortes dans les manifestations en Éthiopie. Qu'est-ce que revendiquaient ces deux grandes ethnies du pays? Comment expliquer qu'une minorité ait pu marginaliser la majorité aussi longtemps que ça?
Des manifestations effectivement durement réprimées le week-end du 6 et du 7 août dans deux régions différentes et même dans la capitale, Addis Abeba, où se trouve Karim Lebourg, notre correspondant. Bonjour Karim.
Bonjour.
Alors c'est pas la première fois que des manifestations terminent dans le sang en Éthiopie, mais cette fois ce sont deux mouvements populaires qui ont eu lieu en même temps dans deux zones différentes et pour des raisons différentes.
D'abord, pour revenir sur le bilan, on est sans doute plus proche d'une centaine de morts que d'une cinquantaine maintenant, d'après les chiffres que l'on a en Oromo et en Amara. Alors, les revendications sont différentes, mais elles ont en commun au départ d'être un problème d'appropriation de terres par le gouvernement, un gouvernement que les Oromo et les Amara, qui sont les deux ethnies majoritaires en Éthiopie, vivent comme étant dominées par la minorité des Tigréens. En région Oromo, ce sont des terres qui étaient saisies pour un projet d'agrandissement de la capitale, Addis Abeba. En Amara, les troubles ont commencé quand le gouvernement éthiopien a changé la frontière de la région Amara qui a donc perdu une province qui a été attribuée à la région du Tigré. Mais plus fondamentalement, le problème, en fait, c'est la chape de plomb que fait peser la coalition qui est au pouvoir en Éthiopie depuis 25 ans. Il n'y a pas d'espace politique en Éthiopie. Le régime a gagné 100% des sièges aux dernières élections. Les opposants et les critiques sont systématiquement jetés en prison au nom de la loi antiterroriste. Et donc, en fait, sans autre possibilité de s'exprimer, les Oromo et les Amara s'expriment aujourd'hui dans la rue.
Alors, vous l'avez dit, notre auditeur Tamba le disait aussi, les deux ethnies les plus importantes du pays sont donc descendue dans la rue. Elle dénonce, je vous l'avais dit, la domination de la plus minoritaire des ethnies d'Éthiopie, les Tigréens, qui constituent donc la base politique des autorités éthiopiennes. Comment expliquer cette domination alors que donc cette ethnie est minoritaire?
Ce sont environ 6% de la population, mais en fait en 91, lorsque le régime communiste de Meguinsu a été renversé en Éthiopie, il a été renversé par une guérilla menée par les Tigréens qui forment encore aujourd'hui l'ossature du régime. Mais ces Tigréens ont mis en place en Éthiopie un système fédéral dans lequel toutes les ethnies sont représentées. Par exemple, le Premier ministre, Hailé Mariam Desalegn, n'est pas un Tigréen. Il est issu du sud du pays. Il a des vice-premiers ministres de chaque ethnie qui sont représentées. Le problème est que les Tigréens occupent encore aujourd'hui les postes clés dans les services de sécurité, au sein de l'armée, au sein des grandes compagnies d'État. Et il y a une perception en Éthiopie qui est réelle ou pas, que lorsque l'on veut demander un permis de construire pour l'achat de terre, que lorsqu'on veut demander quelque chose au gouvernement, autorisation, on est plus facilement écouté ou elle est plus facilement accordée, cette autorisation, si l'on est tigréen ou si l'on est en tout cas membre du parti. Et donc ces manifestations, depuis quelques mois ou quelques semaines, expriment un ressentiment des Oromo et des Amara, qui représentent quand même plus de 60% de la population éthiopienne, contre cette minorité tigréenne. Alors pourquoi ce régime dure depuis aussi longtemps? Et d'abord, sans doute parce que lorsque vous contrôlez les services de sécurité, il est plus facile de rester au pouvoir. Et ensuite, parce que c'est tout de même un gouvernement, le gouvernement éthiopien, qui a eu des résultats, notamment en termes de développement, en termes de réduction de la pauvreté, mais qui aujourd'hui bute vraiment sur les libertés publiques et sur les droits de l'homme.
Oui, une répression dans le sang, vous l'avez dit, Karim Lebourg, hein, peut-être une centaine de morts le week-end dernier, mais aussi le week-end du 6 et 7 août, mais aussi de nombreuses arrestations. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Karim, pour répondre aux questions de Samba Sidi, qui nous appelait de Conakry. On se retourne vers le standard pour accueillir un autre auditeur de Conakry, c'est Ibrahim. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Marie.
Alors vous, Ibrahim, vous interrogez sur la procédure de destitution de Dilma Rousseff au Brésil.
Oui, tout à fait, Marie. Marie, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire bonjour à la NGC et de son président, Bakero Mamadou. Madame, au Brésil, le Sénat s'est prononcé en faveur d'un procès de destitution de Dilma Rousseff. J'aimerais savoir, est-ce que sa culpabilité a été établie entièrement par le Sénat? Quels sont les sens de Dilma Rousseff de rester présidente?
Alors, le vote, hein, il a eu lieu dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août. Un nouveau vote des sénateurs dans le cadre donc, de cette procédure de destitution contre la présidente. On va voir avec Karim Lipol du service international de RFI les enjeux de ce nouvel épisode, d'un feuilleton qui a démarré en avril. Bonjour Karim.
Bonjour Marie, bonjour Ibrahim.
Alors, Ibrahim s'interroge sur le sens de ce vote. Est-ce que cela signifie que les sénateurs sont sûrs de la culpabilité de Dilma Rousseff? Il faut rappeler qu'elle est accusée d'avoir maquillé les comptes de l'État pour se faire réélire.
Oui, elle est accusée effectivement d'avoir maquillé des comptes pour minimiser l'ampleur du déficit. C'était en 2014, l'année de sa réélection. Et elle est aussi accusée d'avoir signé 3 décrets qui ont engagé des dépenses publiques. Et cela sans avoir demandé l'autorisation du Parlement. Donc 2 accusations. Et les sénateurs, effectivement, dans leur majorité, estiment qu'elle est coupable d'avoir, je cite le rapporteur de la commission du Sénat chargée de la procédure de destitution, qui dit qu'elle est coupable d'avoir commis un attentat contre la Constitution. Eh bien, rien que ça. Sa conduite était irresponsable, toujours selon ce rapporteur, et sa conclusion a été appuyée, vous l'avez dit, par la majorité des sénateurs qui ont donc estimé que Dilma Rousseff est coupable et qu'elle mérite d'être destituée. C'était l'avant-dernière étape de ce long feuilleton politique, les sénateurs qui se sont réunis la semaine dernière pour ce vote et qui finalement fait de Dilma Rousseff officiellement une accusée.
Alors c'est ça, les sénateurs sont sûrs que Dilma Rousseff est coupable, mais elle sera jugée lors d'un procès. En quoi va consister ce
procès? Exactement, elle sera jugée lors d'un procès qui commence, on a maintenant la date, le 25 août, qui va durer 3 ou 4 jours, donc ce sera dans 2 semaines. Alors ce procès, en fait, c'est un procès comme un procès normal, donc elle aura l'occasion de s'expliquer, il y aura la défense et l'accusation qui peut appeler des témoins à la barre. Il y aura 6 témoins de l'accusation et 3, pardon, témoins de l'accusation et 6 témoins de la défense. Donc le juge finalement le procès sera présidé par le président de la Cour suprême, qui va donc écouter la défense, l'accusation. Peut-être Dilma Rousseff va se défendre elle-même. Elle va carrément aller devant les sénateurs s'exprimer elle-même pourquoi elle n'estime pas être coupable. Ou elle se ferait peut-être représenter par son avocat. Ça, on ne le sait pas encore.
Et alors Ibrahim, justement, s'interroge sur les chances de Dilma Rousseff de prouver qu'elle est innocente, de rester présidente. Quelles sont ses chances?
Alors, elles sont quasiment nulles, en fait. Finalement, elle-même, elle est très, très résignée parce que si vous regardez la vote au Sénat la semaine dernière, en fait, il y avait 50 voix pour sa destitution et 21 voix contre, et cela est déjà plus que le quorum nécessaire pour la destituer définitivement. Mmh. Donc, en gros, elle n'a aucune chance de rester au pouvoir. Et elle-même, finalement, elle commence déjà à parler des longues vacances qu'elle va prendre après le procès. Donc, finalement, même pour elle, l'affaire est pliée.
Et pour conclure, si Dilma Rousseff est donc destituée, reconnue coupable, c'est Michel Temer qui va la remplacer. Il assure l'intérim et il sera logiquement...
Exactement. C'est le vice-président qui va prendre la succession. Il assure l'intérim. Il va devenir le président officiel jusqu'à la fin du mandat de Dilma Rousseff, qui est octobre 2018. Alors, on sait déjà que Michel Temer ne va pas se présenter aux élections en 2018. Donc, il va juste assurer la présidence jusqu'à la fin du mandat.
On en reparlera donc à Rémy Lepold avec ce procès. Vous l'avez dit, le 25 août, hein, c'est ça ? Merci beaucoup d'avoir été en studio avec nous pour répondre à Ibrahim, notre auditeur de Conakry. Il est 8h20 en temps universel. On accueille un nouvel auditeur de RFI. C'est Moussa qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Moussa.
Alors bonjour Marie.
On va rester sur le continent américain avec vous pour parler de la présidentielle aux États-Unis. On écoute vos questions.
Oui, bonjour Marie et bonjour à tous les auditeurs de RFI. J'ai écouté qu'il y a un ancien agent de la CIA du côté des Républicains qui veut se présenter à l'élection présidentielle américaine de novembre. Alors, ma question est de savoir quel est son parcours. Est-ce que sa présence peut avoir un impact sur l'élection présidentielle américaine?
Merci Moussa. C'est Amy Green, enseignante-chercheure à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique américaine, auteur de « L'Amérique après Obama » aux éditions Autrement, qui va vous répondre. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Amy Green.
Oui, bonjour.
Alors, à moins de 100 jours de la présidentielle américaine, Evan McMullin se lance donc dans la course. Notre auditeur le disait, hein, c'est un ancien agent de la CIA, il a 40 ans. Il est peu connu des Américains. Qu'est-ce qu'on sait de lui?
Il est très peu connu. C'est effectivement quelqu'un qui veut se présenter comme choix plus appétisant pour les conservateurs au nominé officiel, ce qui est Donald Trump. C'est quelqu'un qui, comme vous avez dit, a passé un peu de sa carrière dans le CIA sur les enjeux de contre-terrorisme. Il a été également conseiller à la Chambre de représentants au Parti républicain. Il a également travaillé dans une banque d'investissement. Mais comme vous avez bien souligné, il est très jeune, à 40 ans. Il n'a pas eu de poste de responsabilité dans la politique, voilà, donc c'est quelqu'un de très peu connu. Il a néanmoins le soutien de quelques grands donateurs qui se disent contre Trump dans toute sa constance. Malheureusement pour cette personne, il est donc très peu connu et il s'est pris assez tardivement à la course à la présidence, ce qui va beaucoup le pénaliser dans ses chances.
Alors vous parlez de soutien, on est obligé de parler de soutien financier aussi. Qui aide Evan McMullin à se lancer dans la course?
C'est ce qui s'appelle un super PAC. Donc en fait, c'est une association de donateurs d'une association dans cette fois qui s'appelle Better for America. Donc en effet, c'est des conservateurs qui se manifestent contre la nomination de Donald Trump et qui cherchent un candidat à se présenter comme un choix acceptable aux conservateurs qui craignent le vote pour Donald Trump.
Alors vous l'avez dit, hein, la candidature de Donald Trump ne fait pas l'unanimité hein, chez les Républicains, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, plus de 70 d'entre eux ont par exemple appelé leur parti à ne plus financer la campagne du milliardaire. Evan McMullin, lui, se présente comme l'homme de la troisième voie, donc contre Donald Trump, mais aussi contre Hillary Clinton, la candidate des démocrates. D'où la question sûrement de Moussa hein, sur l'impact de sa candidature sur ces élections.
Il y a un impact assez minime, si je peux dire, parce que d'abord, il s'est pris suffisamment tard qu'il ne sera pas sur toutes les listes dans tous les États fédéraux au mois de novembre. Donc, de toute façon, il y a une grande partie du pays qui n'aura même pas l'occasion de voter pour lui s'ils auraient souhaité. Et ensuite, il n'a pas beaucoup de chance, il n'a pas beaucoup de financement, il n'a aucune infrastructure, il n'a pas un soutien plus large que quelques personnes autour de lui. Donc, finalement, il peut être là pour essayer de faire bouger le débat un petit peu, mais finalement, l'impact sera assez réduit dans le sens où il n'aura pas un soutien suffisamment fort pour rassembler les électeurs et pour créer un véritable mouvement national.
Alors finalement, cette candidature, elle est plus symbolique qu'autre chose?
Oui, plutôt symbolique. C'est peut-être aussi quelqu'un qui veut essayer de se positionner au sein du parti pour des prochaines échéances. Mais en tout cas, pour cette fois-ci, vraiment, son entrée est arrivé beaucoup trop tardivement pour avoir un impact cette fois-ci, d'autant plus que c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu. Donc, pour tenter la présidence pour la première échéance électorale, c'est quand même très ambitieux, bien sûr, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de se positionner au sein du Parti républicain dans le post-2017.
Est-ce qu'on a déjà vu comme ça, rapidement, un candidat dissident perturber une campagne, ne serait-ce que par l'éclatement des voix?
Ah bah oui, tout à fait. On a plusieurs exemples. Je peux penser notamment à Ross Perot en 92, qui a posé quelques soucis à la fois à l'ancien président Bush, père, et Bill Clinton. Bill Clinton qui finalement bien sûr a gagné. Et ensuite, on peut penser à Ralph Nader en 2000, qui a pris un certain pourcentage du vote qui aurait pu être destiné à Al Gore, mais qui finalement aurait pu faire la différence dans quelques États. Donc oui, on a cet exemple de quelques candidats qui perturbent tout à fait la dynamique anticipée.
Mais ce ne sera pas le cas, a priori, d'Evan McMullin. Merci, Amy Green, d'avoir répondu aux questions de Moussa, notre auditeur, à Yaoundé, au Cameroun. Une question maintenant culture qui nous a été posée par Issa, un auditeur de Dakar que nous ne sommes malheureusement pas arrivés à joindre. Il nous dit, le président Patrice Talon, le président béninois, a demandé officiellement au Quai d'Orsay la restitution des œuvres d'art béninoises acquises lors de la colonisation. Et il s'interroge, quel est l'intérêt de la France à conserver ses biens? Et peut-on s'attendre à une réponse positive de la part de la France? Et pourquoi pas à ce que d'autres pays africains fassent la même démarche pour la restitution de leurs œuvres d'art? Bonjour José Marigno.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Du service culture de RFI, vous nous avez rejoint pour répondre aux questions d'Issa. Donc d'abord sur l'intérêt de la France de garder ses œuvres, finalement qui revient à se poser la question de l'intérêt du Bénin de les récupérer. Ces œuvres, quelles sont-elles?
Alors, c'est bien bas-reliefs, armes, figurines, masques et statuettes proviennent du Dahomey, l'actuel Bénin. Ils ont été expédiés en France par les forces coloniales françaises après la reddition en 1894 du roi Béhanzin. Sa capitulation fut l'occasion d'un possible pillage important de son royaume. Plus de 5000 pièces se retrouvent aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris. Pour Hélène Le Gall, alors conseillère Afrique de François Hollande, il n'y a pas eu de pillage colonial car avant d'être déporté en Martinique, Béhanzin avait offert librement son patrimoine. Une chose est sûre, colonisation et conflits en Afrique ont favorisé le pillage des musées. 90% des pièces majeures d'art africain sont actuellement hors d'Afrique. Elles se trouvent aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre et en France, dans les musées, collections privées et sur le florissant marché de l'art, comme ces lions fonds du Bénin, vendus à plus d'un million d'euros. Mais ces pièces sont aussi un trait commun avec les dirigeants africains. Quand il faut les soigner, c'est à Paris que l'on pense et le quai Branly est une destination, disons, 5 étoiles. Elles y sont restaurées, elles documentées et photographiées. Au-delà des infrastructures vétustes ou inexistantes pour conserver et faire l'inventaire des œuvres au Bénin, Paris craint les vols, comme celui du Musée National de Kinshasa, où une centaine d'objets très rares avaient été dérobés après restitution. C'est vrai qu'il y a eu, disons, 300 vols ces dernières années dans le musée d'Abomey au Bénin et que le patrimoine de ce petit pays tombe en ruine, mais la demande du Bénin est un signe aussi de volonté de changement et suppose que la culture est de nouveau au centre du gouvernement.
Alors, quelle pourrait être la réponse des autorités françaises?
Alors, la plupart des conservateurs, évidemment, gardent un silence prudent pour éviter d'ouvrir les portes à un mouvement général de demande de restitution par les pays d'origine, ce qui priverait les grands musées occidentaux de pièces de valeur. L'Égypte réclame au Louvre le zodiaque de Dendera depuis 2 siècles, par exemple. Exemple. Les musées français s'accrochent à faire la promotion du patrimoine culturel universel auprès des peuples de toutes les nations, c'est leur mission. Côté collectionneurs, ils ne sont pas tous des hommes blancs, riches et méchants. Des pièces importantes comme le grand Janus Dogon, offert par Senghor à André Malraux, ou le trône de Béhanzin, justement, ont été achetés par un Béninois. Concernant la récupération donc de ces objets du Dahomey, reste à attendre la réponse française. François Hollande semble sensible à l'importance de la réparation, comme le prouve la création d'un musée de l'esclavage à Paris. Ce serait un motif de fierté nationale, de connaissance historique et un atout pour le tourisme mémoriel du Bénin. Ce serait aussi une bonne chose pour la France, afin, disons, d'atténuer le contentieux avec les anciennes colonies qui pèsent sur les relations diplomatiques et les échanges commerciaux.
Et on comprend donc que d'autres pays pourraient entamer les mêmes démarches. Merci José Marinho. Restez avec nous dans un instant, juste après le journal, on lance notre débat sur le revenu universel de base, un revenu alloué à tous, sans condition ni contrepartie. Dites-nous ce que vous en pensez.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.